Folle majeure.
Folle majeure.
Folle majeure.
Yasmine Chouaki.
Elle est née quelque part entre oranger amer et ciel rosissant de Damas. C'est une intellectuelle arabe qui se promène en français dans l'écriture, mais qui tremble, qui aime, qui trahit et qui jouit en arabe. Le prophète toujours dans l'antichambre de ses écrits, Dieu merci. En écrivant La preuve par le miel, roman traduit en 17 langues et sorti en France chez Robert Laffont, Salwa El Naïmi a commis une véritable intifada sexuelle sans précédent. Je cite un journaliste des Émirats arabes qui sait de quoi il cause. Alors, on ne racontera pas l'histoire de cette intellectuelle syrienne qui ressemble comme deux gouttes de ce que vous voulez d'ailleurs à son auteur et qui se lance dans une confession libertine. Dommage ? Ah non, c'est pas dommage, c'est carrément frustrant.
Les lectures secrètes me donnent à penser que les Arabes sont le seul peuple au monde pour lequel le sexe est une grâce dont il faut remercier Dieu. Cher Sidi Mohamed Nafzaoui, savant et courageux, paix à son âme, commence ainsi son ouvrage « Le jardin parfumé ». Gloire à Dieu qui a fait que le grand plaisir de l'homme se trouve dans le con de la femme et que celui des femmes s'incarne dans le membre de l'homme. Le con ne se calme, ne s'apaise, ne trouve satisfaction qu'après sa visite par le membre masculin. Le membre de l'homme trouve son salut dans le vagin.
Assalamu alaikum, Salwa El Naïmi. Dire que vous n'étiez pas chaude, si j'ose dire, pour lire ce très joli extrait de La preuve par le miel. Que n'ai-je appris l'arabe quand même pour lire dans la langue d'Ibn Arabi cet extrait de ce roman? C'est encore meilleur en arabe, non?
Bien sûr, c'est beaucoup mieux en arabe. Et c'est frustrant pour moi que beaucoup d'amis, beaucoup de gens que j'aime bien, qu'ils le lisent, ils lisent le texte en français ou dans les autres langues. Et moi, je veux que tout le monde le lise en arabe.
Alors, la réaction quand même des pays arabes par rapport à cette confession libertine?
C'est un roman, hein, d'abord, je précise. C'est-à-dire, les confessions, ça fait partie du jeu d'écriture. Et ça a tellement marché que tout le monde me prend pour la bibliothécaire qui est la narratrice du roman.
Alors, les réactions dans les pays arabes, à Damas par exemple, comment on a reçu ça?
À Damas, le livre est sorti il y a 2 ans, et donc il y a eu 2 salons de livres à Damas où le livre a été interdit. Bien sûr, il est interdit de vente, mais il se vend sous le manteau. Dans les autres pays arabes, là, dans la plupart des pays arabes, il est aussi interdit. Il a été autorisé dans les pays du Maghreb et dans le salon du livre d'Abu Dhabi seulement, c'est-à-dire dans les Émirats. Il y a seulement dans le salon du livre d'Abu Dhabi où ça a été autorisé.
Vous voulez expliquer comment ça?
Il ne faut pas chercher une logique. Pardon, il ne faut pas chercher une explication. Ça. Dans le monde arabe, c'est arbitraire. Je ne m'explique pas de toute façon.
Une petite question. Est-ce que je dois vous présenter comme une intellectuelle syrienne ou une intellectuelle arabe?
Je suis de moins en moins syrienne. Depuis mon arrivée en France, je découvre tous les jours un peu plus que je suis avant tout arabe. C'est-à-dire que je suis syrienne, bien sûr, je suis née à Damas, je fais mes études à Damas, mais mon arabité, si vous voulez, je l'ai découverte ici, en France. Parce que quand je rencontre les autres Arabes, les Marocains, des Algériens, des Irakiens, des Libanais, de tous les pays arabes, et je vois qu'il y a cette langue qui nous unit. Il y a, par exemple, quand je parle des chanteurs, par exemple, on écoute les mêmes chanteurs, on voit les mêmes films, on lit les mêmes bouquins, il y a quelque chose qui nous... Ça dépasse peut-être tout ce qu'on disait avant. Là, maintenant, même parmi les Arabes, il y a des gens qui ont horreur de parler d'arabité, parce qu'à un moment donné, c'était politique, et ils ont l'impression que ça a été dépassé, que c'était un temps révolu. Mais moi, c'est le contraire. Moi, je sens cette arabité de plus en plus... dans ma vie.
En tout cas, ça a l'air riche et complexe. On va en reparler après Benabar, car en sol majeur, c'est d'abord des questions. sur le pourquoi comment de cette double et triple culture. Et puis c'est aussi un gros pick-up avec 5 chansons choisies par notre invité. Et alors vous, Salwa El Naimi, vous avez eu envie de Benabar, nouvelle chanson française. Enfin, plus si nouvelle que ça d'ailleurs, avec le Dîner, titre de son nouvel album. Pourquoi, ouais. pourquoi ce grand garçon aux yeux clairs vous plaît tant?
Parce qu'il est, il est plein d'énergie. J'aime les gens qui ont cette façon d'écrire, de vivre. Parce qu'écrire, c'est vivre pour moi. C'est humour, c'est plein d'humour. Et j'adore ça.
Benabar, choisi par Salwa El Naimi en sol majeur.
Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas, allez, on n'y va pas. En plus, pour que je fasse un régime, ma chemise me boudine. J'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir, parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Je suis pas d'humeur, tout me déprime. Et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7e art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par De Funès. En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à des amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas. On n'a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi.
Un dîner un petit peu écourté avec Benabar en sol majeur et sur notre partition, la voix de Salwa El Naimi qui traque les moindres clichés, les moindres corsets de la femme arabe dans La preuve par le miel. Et cerise, c'est en France que notre abeille butine son miel arabo-andalou.
Quand vous étiez enfant, quels étaient vos modèles ou vos idoles?
Abdelhalim Hafez, le chanteur, Nasser, bien sûr, Scarlett O'Hara.
C'est pas exactement, ils jouent pas dans la même cour. Hein.
Non.
Ça aurait fait un joli couple. Hein. Oui. D'accord. Nasser, ça c'est vraiment l'incontournable, la figure incontournable du monde arabe des années 60-70.
Oui, bien sûr. Et pour moi, je me dis que notre génération, peut-être c'était la chance de notre génération de vivre ces années où le mot d'ordre c'était « mon frère, lève ta tête ». Parce que quand je vois l'image négative qu'on nous renvoie, c'est-à-dire que nous, on nous renvoie de nous-mêmes et que tout le monde accepte et que tout le monde répète de nous, de notre culture, moi j'ai un refus viscéral de cette image négative, mais viscéral réfléchi bien sûr, parce que c'est toujours associé chez moi. Et moi je dis toujours, comme on disait, black is beautiful, moi je dis arabe is beautiful.
Quoi savez-vous de vos ancêtres?
Je sais que mon grand-père maternel était un fabricant de vin, d'alcool en général, ouais. Et c'est pour ouais. ça quand tout le monde boit autour de moi, moi je bois très peu. Je sens que j'ai pas besoin de ça pour être dans un état euphorique. Donc je me dis c'est sûrement tout l'alcool de mon grand-père maternel qui a mis ça dans mon sang. Je sais que mes ancêtres du côté de mon père étaient ismaéliens, ce qu'on appelait l'histoire, on appelait les assassins. Mais c'est un courant chiite.
Il faut redire juste pourquoi on les appelait les assassins très rapidement.
C'est parce que il y a plusieurs interprétations des mots, parce que c'était une des explications pour ce qu'ils faisaient des opérations kamikazes sans se faire tuer, c'est-à-dire mais ils faisaient des opérations de pendant les croisades d'assassinat et on raconte beaucoup d'histoires sur un personnage qui s'appelle Al-Hassan Sabah, qui les envoyait dans des missions d'assassinat après avoir avalé des drogues. L'autre interprétation, c'est que ils prenaient des hashish, les hashashin, on les appelait en arabe les hashashin, c'est-à-dire en arabe la traduction c'est hashashin.
Donc dans votre sang circule à la fois le vin et le hashish. Vous êtes vraiment fille de plaisir. Hein. Vous êtes aussi née d'une love story entre ce papa ismaélien, donc courant chiite, poussé vers la philosophie, vous me disiez. Mm-hmm. Une love story entre lui et une maman, future maman, qui, elle, n'est pas du tout ismaélienne.
Non, elle est chrétienne, arabe, bien sûr, comme lui, mais chrétienne. C'était une grande histoire d'amour. Et moi, c'est-à-dire de tout jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la fin, le décès de mon père l'année dernière, de ma mère. C'est-à-dire, on était bercés par l'histoire de leur amour. C'était comme à l'école. C'était tous les jours, il y a une histoire nouvelle. Comment ça s'est passé? Et ma mère, la version de ma mère, la version de mon père, et c'était j'ai grandi avec ça.
Donc famille double religieusement,
déjà,
hein, excusez-moi,
oui,
de ramener ça sur le terrain de la religion qui est un peu plus kamikaze parfois. À l'arrivée, ça donne quoi, une double raison de tourner le dos à toutes ces questions de la religion?
Peut-être ça donne ça, c'est-à-dire on n'a pas envie de choisir quand on est enfant, parce que si tu choisis entre la religion de ton père et la religion de ta mère, ça veut dire que tu choisis entre ton père. On n'a pas envie de choisir, donc on adopte peut-être les deux au début, mais avec beaucoup de recul, mm-hmm, et avec beaucoup de sens critique, c'est-à-dire tu as les deux versions, donc
agnostique.
Plutôt, oui.
Plutôt, hein, on va dire ça comme ça. Vous avez écrit de façon assez énigmatique, en tout cas pour moi, un recueil de poèmes intitulé « Mes ancêtres, les assassins ». Très, très rapidement, que racontait ce poème éponyme?
Je dis « Mes ancêtres, les assassins », comme un Français dit « Mes ancêtres, les Gaulois ».
C'est pas pareil.
Heureusement. Donc,
je dis pas que les Gaulois, ils ont pas un petit peu trucidé à droite à gauche, mais
comme tout le monde. Hein. Ouais. Donc, moi, c'était le titre, c'était un jeu, mais le poème, c'était un peu, c'est l'histoire personnelle à travers l'histoire collective.
Mmh. En tout cas,
c'est de la poésie avant tout.
Oui, c'est facile. Ça. On se dit qu'après avoir vécu les années Hafez et Assad, ça laisse forcément des traces dans les titres des poèmes. Alors, comme vous êtes d'abord arabe, mm-hmm, on va dire qu'Abdel Halim Hafez est l'un de vos lointains ancêtres.
Oui, mais c'est mon amour jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, moi, j'ai arrêté d'écouter tout ce qui est chanteur arabe. Avec Abdel Halim. Jusqu'à maintenant, j'écoute que Abdel Halim.
C'est le beau gosse égyptien.
Je sais pas s'il était beau, il était pas si beau que ça. C'est peut-être pour ça qu'on
l'aimait.
Il est mort plutôt jeune, ouais, et il était pas très beau, mais il était d'une sensibilité. Et mon père répétait toute la journée que c'est pas un chanteur, et moi je l'adorais.
Oh.
Habibi, elle aime Abdel Halim Hafez, le miel, et le soufi Al-Junayd qui écrivait « J'ai faim de coït comme j'ai faim de nourriture ». C'est à peu près ce qui était dit dans la chanson, non, Salwa El Naïmi? En gros.
Autrement, ouais.
Autrement, c'est-à-dire?
Autrement, bah, c'est-à-dire, c'est toujours l'amour, bien sûr, mais c'est l'amour, c'est ce qui est insaisissable dans l'amour, et même dans le sexe pour le Junayd.
Salwa El Naïmi, une professionnelle, auteure arabe installée en France, l'invitée dans Sol Majeur.
Liberté, égalité, fraternité sont les mots fondateurs de la Déclaration des droits de l'homme. Lesquels de ces trois mots vous fait le plus défaut dans votre vie de tous les jours ?
Bah, peut-être fraternité. J'étais dans le bus en train de lire le manifeste d'Edouard Glissan, le manifeste des Neufs avec Edouard Glissan, Chamoiseau, tout ça, et je me disais, il y a beaucoup d'efforts à faire encore en France. Pour l'égalité, pour la fraternité. Et je n'ai pas besoin d'aller dans le dom-tom ici en France, ici quand je
dans
vois
la métropole,
de la métropole, quand je vois autour de moi ce qui se passe, quand je lis les statistiques de pauvreté, quand je vois les sans-abri, je me dis qu'il y a.
Non, mais ça, c'est l'intellectuel
encore...
qui parle, mais dans votre vie de citoyenne,
dans ma vie, c'est aussi la citoyenne. Dans ma vie, c'est ça, quand je vois ça.
Sinon, la France, c'est un choix politique, un choix intellectuel, un choix économique dans votre vie, ça correspond à quoi?
Au début, c'était un choix sûrement intellectuel, parce que c'était la continuité. Je devais venir en France. C'était comme ça. Je devais venir. Je devais faire mes études ici. Je devais.
C'était écrit quelque part.
Je ne sais pas si c'était écrit, mais c'était une légende familiale. Et moi, j'ai suivi la légende familiale et je suis venue pour faire mes études. Après, je me suis installée.
Pour vous, l'écriture, c'est une question de liberté.
Sûrement.
Ce qui expliquerait votre mariage avec la ville lumière, on va dire.
Je ne sais pas si c'est un mariage. Dans ma tête, moi, je ne suis pas mariée.
Vous n'êtes pas du tout. Hein, vous êtes même polygame, etc. Vous êtes dangereuse.
J'aime pas le mot mariage. Ouais. C'est un choix de tous les jours, parce que je peux partir quand je veux. C'est peut-être pour ça que c'est-à-dire le deuxième lieu qu'on choisit, c'est toujours plus facile à vivre que le premier. Le premier, on le vit comme si c'était obligatoire et on essaie de nous échapper. Le deuxième, on se dit c'est un choix, et un choix que je vis tous les jours. Et je voyage beaucoup, mais je reviens toujours et je reviens avec beaucoup de plaisir.
Et vous êtes une maîtresse femme et vous aimez tellement la liberté en tant que femme que vous refusez, en tout cas dans votre personnage, dans votre roman, le mot amour qui assujettit la femme. Hein?
J'aime pas le mot amour parce que ça a été très, très...
galvaudé.
Ça devient vraiment banal de dire... Moi, je préfère quelqu'un qui me dit « je te désire » que quelqu'un qui me dit « je t'aime ». Parce qu'il peut dire « j'aime le fromage » et il peut pas dire « je désire le fromage ».
Pas encore. Salwa El Naïmi, je vous kidnappe encore un petit peu dans notre boudoir dans Sol Majeur. Et on se retrouve juste après le journal.
Maghreb des livres.